Bonjour Bernard Dufour, nous vous recevons aujourd'hui à propos de la sortie de votre dernier roman Contrebandier, Manipulation au singulier, sorti en mars 2007. Vous n'êtes pas inconnu sur les tablettes des contrebandiers puisqu'en 2006 vous avez sorti Mafia, un roman déjà avec Pierre Irigoyen, le fameux reporter Globetrotters. Qui nous avait déjà fait faire le tour du monde une fois. On repart pour un second tour du monde, là, j'ai l'impression. Je vais lire la quatrième de couverture pour poser un peu le débat et puis pour en discuter après de cette nouvelle sortie. Un homme politique, adepte du SM, sadomasochisme, victime d'un chantage odieux sur fond de guerre technologique. Une call girl au cœur du complot, des investisseurs au pouvoir et aux appétits gigantesques. Soudain, la mort frappe. Alors qu'il réalise un reportage en Israël, dans une Palestine à feu et à sang, Pierre Irigoyen va se retrouver plongé dans une incroyable manipulation qui le conduira de Paris à New York en passant par Jérusalem, Ramallah, le Pays Basque et Montréal. Mais le temps est compté. Réussira-t-il à déjouer le complot? Dans cette nouvelle aventure du caméraman basque, Pierre Irigoyen, Bernard Dufour nous entraîne dans une enquête taillée au scalpel et aux rebondissements spectaculaires. Aux confins du polar, du thriller et du livre d'espionnage, Manipulation est un roman percutant au style musclé et dynamique qui vous prend à la gorge dès la première page pour ne plus vous lâcher. Bien alors, d'après la quatrième, on a l'impression que vous êtes reparti dans la même veine que Mafia.
Oui, c'est toujours un peu le même style, puisque bon, d'une part, c'est le même héros, donc il est en reportage. Et puis, alors qu'il se retrouve en Israël en train de réaliser une rencontre entre un Israélien et un Palestinien, il reçoit un message d'une amie à lui, d'une call girl qu'il a connue quelques années avant, et qui lui dit qu'elle est menacée. Au départ, lui pense que c'est juste un problème personnel de cette fille. Bon, il s'inquiète pas trop. Et en arrivant à Paris, il s'aperçoit en fait qu'elle est au cœur d'un complot fomenté par la CIA. Et il essaye de remonter un petit peu toute l'histoire du complot. Il va démanteler un petit peu le mécanisme et retourner en fait la manipulation sur les personnes qui sont en train de la faire.
Voilà, donc d'où le titre Manipulation. Alors on peut lire en fait cette histoire de manipulation politico-industrielle. On voit la CIA, on voit la CIFC aussi, j'ai noté Californian Investment Fund Corporation. Vous faites de la documentation pour faire ce genre de livre?
En fait, celui-là, oui, il est assez documenté. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce livre est vrai. Après, bon, c'est bien sûr, c'est la base de l'histoire. Après, tout est romancé, hein, les personnages, etc. Tout ça, bon, sont des personnages de fiction. Mais l'histoire, ces histoires de manipulation par la CIA sont vraies. Il y a même des articles que je suis allé repiquer dans Paris Match. Je me suis pas mal renseigné là-dessus. Et puis en même temps, l'histoire israélo-palestinienne, je connais bien puisque j'ai investigué là-dessus moi pour différentes chaînes de télévision. Donc je connais bien les lieux et les personnages dont je parle. Et la manipulation au niveau du sadomasochisme, l'homme politique, etc. J'ai aussi participé à un documentaire pour France 3 à l'occasion d'une investigation sur un homme politique qui était mouillé dans des histoires comme ça. Donc là aussi, ce dont je parle, c'est tiré de faits réels.
C'est-à-dire que quand vous dites les histoires sont vraies, c'est la structure des histoires que vous avez repris à partir d'articles ou de reportages ou de dossiers qui s'étaient pas, enfin, qui décrivaient déjà le processus et que vous avez réutilisé là.
Voilà, c'est ça. En fait, je suis parti de plusieurs petites histoires ou de reporters qui m'avaient parlé de certaines choses. Donc, quand j'ai commencé à écrire le livre, pour avoir quand même un fil conducteur cohérent, je suis allé chercher de la documentation. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que la CIA avait des fonds d'investissement qui permettait de prendre des actionnariats dans des groupes français, européens, allemands, etc., hollandais. Alors c'est soit pour avoir de la technologie, soit pour rentrer pour vous permettre de vendre ensuite leur processus à eux. Donc il y a tout un tas de manipulations comme ça orchestrées par la CIA et par les Américains sur les Européens. Bon, c'est comme ça qu'ils ont réussi à vendre des avions américains ou des hélicoptères de combat aux Hollandais, aux Belges, alors qu'ils auraient, que ces gens-là auraient très bien pu les acheter aux Allemands ou aux Français. Ils ont pris des actions, ils ont réussi à rentrer au niveau actionnariat dans des grosses sociétés industrielles françaises ou européennes et prendre des actions, par exemple, sur des histoires de satellites européens. Donc ça leur permet d'avoir accès à certains documents où ils ne pourraient pas avoir accès s'ils n'avaient pas ces investissements. Ça leur permet de racheter des entreprises européennes qui sont susceptibles de leur fournir de la haute technologie et de profiter de la haute technologie européenne de manière plus simple que d'investir chez eux. Ils arrivent, les recherches sont déjà faites, ils investissent et c'est comme ça qu'ils ont réussi, notamment parce qu'ils avaient besoin dans leur... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du système Echelon qui permettait justement d'avoir une mainmise un peu sur...
D'écouter, ouais, c'est les, ça, voilà. De lire les mails, d'écouter voilà. Les messages.
Oui, c'est un système qui permet d'avoir au niveau média, enfin au niveau des interconnexions, téléphone, satellite, écoute, tout ce qui est écoute, de pouvoir écouter le monde entier. Et ils avaient quelque chose sur lequel ils étaient moins bons que les Européens, c'était les cartes à puce, et où les Français sont très forts. Et ils ont réussi...
C'est d'ailleurs un Français, je crois, qui a inventé la carte à puce, c'est ça ?
Oui, c'est un Français qui avait tout le processus, enfin, qui avait inventé la carte. Les Français avaient une grosse société de fabrication de cartes à puce. Bon, je connais pas. Bon, ça fait un petit moment que j'ai quitté le livre, donc je me souviens pas vraiment des choses très précises, mais notamment une société française qui avait toute cette technologie et les Américains. Par des manipulations, justement, au niveau financier, ont réussi à avoir la mainmise sur le processus des cartes à puce, ce qui était la dernière chose qui leur servait, dont ils avaient besoin pour leur espionnage. Voilà.
Parce que, je lis un petit peu la presse, mais sans plus que ça. Quand vous dites c'était la dernière technologie qui leur manquait, ou enfin là où ils avaient le plus de retard dans la technologie des puces, vous parlez d'en manipulation ou dans la réalité ?
Non, je parle dans la réalité.
D'accord, mais alors, ça veut dire quelque part que les médias en parlent pas de ces histoires-là.
Si, les médias en ont parlé. Paris Match avait fait un gros dossier là-dessus. Donc c'est là un petit peu où je suis allé investiguer, à la fois sur Internet et sur Paris Match. Et puis, bon, j'ai cherché des dossiers dans Le Monde, etc. Bon, j'ai fait un petit boulot de journaliste d'enquête pour pas dire de bêtises dans le livre. Bon, en même temps, dans mon roman, je développe pas ça. C'est pour avoir une intrigue. Mais disons que l'homme politique de mon livre, dans Manipulation, qui s'appelle Gérard Ourdin, est à la fois un homme politique qui a des actions dans une société justement de cartes à puce. Et ces cartes à puce vont, dans mon livre, servent à la haute technologie européenne. Et cet homme politique ne veut pas que cette technologie parte aux États-Unis. Et les Américains, pour lui mettre la pression, vont le manipuler par une histoire sexuelle. Il a des fantasmes sadomaso, donc il a une call girl qu'il voit de temps en temps, avec qui il s'amuse, entre parenthèses, et ils vont le piéger en le filmant et en le faisant chanter. Et en le faisant chanter, ils vont lui proposer de racheter les actions. Donc il est coincé, et en même temps, quand il est... quand il se fait manipuler, la jeune femme, justement, qui fait du SM avec lui, tombe par hasard sur des documents, complètement par hasard, elle ne sait même pas ce que c'est, et elle va en parler, justement, à Pierre Irigoyen, et c'est comme ça que l'histoire va basculer. Voilà, l'histoire va...
Et alors, comment vous travaillez ? Enfin, vous nous aviez déjà un petit peu décrit vos méthodes de travail, de la façon dont vous écrivez, mais bon, c'est quand même une somme, il y a plus de 300 pages. Les rebondissements arrivent assez facilement, enfin, une fois que vous avez l'intrigue, enfin, vous savez donc que vous allez développer une histoire autour des cartes à puce, des fonds d'investissement, de l'espionnage industriel. Vous faites un plan précis là encore, ou vous laissez filer la plume ?
C'est-à-dire, c'est à plusieurs niveaux le livre, un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a il y a un niveau qui est le niveau de l'histoire de base, où pour l'instant il ne se passe rien, c'est Pierre Irigoyen est en reportage. Donc il est en reportage en Israël, mais il pourrait être n'importe où. Il pourrait être aux États-Unis, en Afrique. Bon là c'est par hasard en Israël. Ensuite, une fois que j'ai cette histoire, hein, bon, qui est un petit peu la vie de tous les jours du reporter, je trouve une enquête qui se greffe dessus, mais qui pourrait... elle arrive un peu par hasard. C'est-à-dire, là, ça se passe en Israël, tout d'un coup, il y a un peu plus d'action. Mais on pourrait très bien comme je vous dis, pourrait très bien faire un reportage sur les éléphants en Afrique. Hein, bon, mais ça, c'est la vie de tous les jours du reporter. Donc ça, c'est facile pour moi, puisque j'ai vécu ça. Donc bon, c'est une petite trame qui est en premier jet, comme ça. Et ensuite, je travaille sur une intrigue. Et là, l'intrigue, là, j'ai un plan. Donc j'ai un plan pour savoir où je vais, comment je vais la développer. Et je me sers uniquement après de sur l'histoire Israël-Palestine, c'est un petit peu les fioritures. Et ça, mais comme c'est à l'étranger, ça donne un petit peu de dynamique, ça fait des fausses pistes. On se demande pourquoi il est là, est-ce qu'il va se passer quelque chose là. Bon, alors, en l'occurrence, à cette occasion, comme c'est la CIA qui manipule, la CIA ayant des intérêts aussi au Moyen-Orient, il va se passer quelque chose là-bas aussi.
D'accord. Alors, en fait, face au réseau de la CIA, vous mettez en place un deuxième réseau, celui de Pierre Irigoyen, un réseau qui prend ses racines dans le Pays basque.
Pierre Irigoyen est basque. Et des Basques, il y en a un peu partout dans le monde entier. Ce sont des gens qui voyagent pas mal. Donc il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Amérique du Sud. Moi, j'en ai rencontré partout lors de mes voyages. Il y a toujours un Basque quelque part, un restaurant basque, un gars qui est un berger. Bon, voilà. Et donc, en fait, Pierre, comme il va bouger, quand il a besoin d'un coup de main, il peut toujours trouver l'aide d'un Basque quelque part. Bon, à côté de cette diaspora, il a aussi un groupe d'amis, dont deux, trois copains au Pays Basque même, qui sont des gens qui ont été un petit peu dans le terrorisme basque dans les années 80, 70-80, qui maintenant sont rangés un petit peu de tout ça, qui ont qui travaillent dans la vie de tous les jours, et puis qui quand même ont gardé les bons réflexes quand il faut agir. Et à côté de ces gens du Pays Basque, il a un ami à lui qui est un ancien commandant de la DGSE, qui maintenant travaille dans le cinéma, qui travaille sur les cascades, sur tout ce qui est cinéma d'action, et qui va l'aider quand il y a vraiment un gros problème. Donc il va effectivement mettre en opposition à la CIA toutes ses relations pour pouvoir essayer de les contrer.
Bien, et je crois que vous êtes reparti sur un troisième projet bientôt.
Oui, alors le troisième projet est plus compliqué parce que c'est une histoire qui se passe... Enfin, il y a deux histoires parallèles, une histoire au XVIIIe siècle et une histoire aujourd'hui, avec une chasse au trésor. C'est un peu différent, mais c'est toujours Pierre Irigoyen et ses amis. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué comme histoire. C'est à plusieurs niveaux.
On sait que les Basques sont de grands navigateurs.
Voilà, donc les Basques sont de grands navigateurs. Donc il y a des pirates, des corsaires, des voyages. Alors là, il y a un voyage dans le monde entier. Ça va aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Indonésie.
Oui, on fait encore le tour du monde pour 15 € sans doute. Et alors, une sortie est prévue à quelle date ?
Ah, ça, je ne sais pas du tout. Là, il faut demander à mon éditeur, parce que pour l'instant, j'en suis à peine aux corrections. Il y a pas mal de choses à revoir. Je pense que ce sera un an après celui-là, quoi. Enfin, généralement, c'est tous les 10 mois. Ce serait pas mal.
Très bien. Mais c'est une belle régularité. Donc, on conseille pour cet été, Manipulation, un bon roman de plage pour éviter de s'endormir trop tôt à la sieste. Merci, Bernard.
Merci à vous.